écoutez Lille Info sur Radio Campus. On va parler aujourd'hui de développement durable avec Monsieur Louis Bizalion. Bonjour Monsieur Louis Bizalion.
Bonjour.
Donc le développement durable sur l'université Lille.
Oui.
Et donc c'est une préoccupation majeure de l'université, le développement durable ?
Oui, effectivement, l'université Lille s'est saisie de cette question, comme pas mal d'acteurs du territoire actuellement. Et donc depuis 2010, l'université Lille est officiellement engagée dans une démarche de développement durable.
C'est une obligation ? C'est une volonté propre, on va dire ?
Alors, il y a beaucoup de choses dans le développement durable. Il y a certains éléments qui relèvent effectivement du réglementaire, mais les universités sont incitées, depuis le Grenelle de l'environnement, en fait, à mettre en œuvre ce qu'on appelle un plan vert, le plan vert des universités. C'est écrit donc, c'est issu du Grenelle 1, du Grenelle de l'environnement. Donc.
C'est plus facile pour certaines universités que pour d'autres par rapport à l'espace qu'elles occupent, notamment si c'est dans la ville ou par exemple, le campus de Lille, c'est un peu particulier.
Oui, effectivement. Alors, je ne sais pas s'il y a des universités pour lesquelles c'est plus difficile que pour d'autres, mais en tout cas, effectivement, chaque université a ses spécificités, ses particularités, et puis sa culture propre aussi. Donc, en fonction du campus, si c'est un campus central comme la Cité Scientifique pour Lille 1, ou si c'est un campus éclaté comme, par exemple, pour l'Université Lille 2, si c'est un campus très vert, par exemple, Lille 1, on a la spécificité d'avoir énormément d'espaces verts. Et voilà, puis après ça dépend aussi un peu des cultures propres à chaque établissement.
Si on fait un petit bilan des 10 dernières années, est-ce que les espaces verts ont reculé ou diminué à Lille 1 ? Il y a quand même de nouveaux bâtiments, des constructions nouvelles ?
Alors moi je pense que si on mesurait objectivement, je pense que la surface d'espaces verts a dû diminuer. Parce qu'il me semble qu'il y a eu depuis les 10 dernières années quand même pas mal de constructions sur des nouvelles parcelles. Après il ne faut pas juste regarder le critère de la surface d'espaces verts disponibles, parce que ce qu'il faut regarder c'est aussi la qualité des espaces. Et là par contre depuis 10 ans elle a évolué et elle s'est beaucoup améliorée. Parce que depuis 3 années maintenant, par exemple, on a arrêté d'utiliser ce qu'on appelle les produits phytosanitaires chimiques. Donc tout ce qui est pesticides, engrais, tout ça, qui sont des produits chimiques toxiques en fait pour l'environnement et qui ont la qualité de nous faire des jolis jardins à l'anglaise, mais qui ont le défaut de tuer la biodiversité.
Alors pourquoi on les utilisait avant ? Parce que bon, je veux dire, on a pris conscience de façon récente de ce problème, ou bien est-ce qu'il y avait un lobbying des gens qui produisaient des produits chimiques qui faisaient qu'on acceptait ça facilement à cette époque-là et que maintenant il y a un renversement de tendance ?
Alors il y a peut-être ça, effectivement, qu'on était incité à utiliser ce genre de produits. Après, je pense que c'est surtout pour des facilités. Entretenir ces espaces verts, pour l'université Lille 1, comme pour n'importe quelle institution, ça représente un coût en termes de nombre de personnes qu'il faut réunir pour effectuer le travail. Et en utilisant des produits phytosanitaires, il se trouve que on gagne du temps. Parce que au lieu d'avoir 5 jardiniers qui vont faire ça à la main ou avec des méthodes plus laborieuses, voilà, avec les produits phytosanitaires, c'est très très rapide. Et puis pendant longtemps, on s'est beaucoup moins posé les questions liées à la toxicité. Et puis les vendeurs de ces produits nous disaient ils sont pas dangereux à condition qu'on les dose bien. Or, ils étaient rarement bien dosés. Ce n'est pas évident non plus à doser comme produit. Mmh. Et en fait, ça nécessitait aussi de mettre en œuvre un certain nombre de mesures de sécurité, des périmètres autour. On n'a jamais vu dans la moindre mairie ou moindre collectivité ces périmètres et ces règles de sécurité réellement respectées. Donc aujourd'hui, la tendance, c'est effectivement à l'abandon de ces produits toxiques.
Donc ça rejoint une tendance de fond, on peut dire, en France et de l'administration en général ?
Alors un mouvement de fond, très certainement, parce que bon, tout le monde a constaté que le concept de développement durable s'est imposé ces 10 dernières années. Et effectivement, si on continue sur le bilan des 10 dernières années, il y a énormément de réglementations qui sont venues compléter la réglementation en vigueur, et énormément d'incitations de la part de l'État pour que ces établissements publics adoptent des comportements exemplaires. Donc l'État incite fortement à ce que l'université Lille 1 fasse des achats plus responsables et mène une politique environnementale plus respectueuse.
Quand on dit incite, c'est donne de l'argent supplémentaire ou flèche des financements pour les orienter vers ce type d'action ?
Ah oui, les financements, effectivement, c'est le nerf de la guerre. Des financements, pas tellement. Après, c'est vrai qu'ils ont développé un certain nombre d'outils qui sont à la disposition des acteurs qui veulent s'engager dans cette transition. Après, des financements, non. Ils ont développé un certain nombre de modes de financement avec des prêts à taux zéro. Il y a des systèmes, mais en fait, c'est très très large le concept de développement durable. Il y a des outils un peu à droite à gauche pour la performance énergétique, pour la gestion de la biodiversité. Enfin, dans tous les domaines un peu du développement durable, ils ont créé quelques outils, mais des grosses aides financières et massives, pas forcément.
Alors on a eu l'occasion dans cette émission de présenter la recherche dans le domaine justement des économies d'énergie et du développement durable. Est-ce que cette recherche peut entrer en application dans ce champ, j'allais dire ce champ, qu'est l'Université Lille?
Alors effectivement, la recherche à Lille, c'est une des spécificités. Comme on est une université des sciences et technologies, on a quasiment mécaniquement beaucoup de laboratoires de recherche qui œuvrent au quotidien pour développer les technologies, les savoir-faire qui sont nécessaires au développement de l'économie verte. Et effectivement, l'université, dans sa démarche de développement durable, elle a pour mission de s'assurer que les laboratoires de recherche répondent effectivement aux besoins du territoire dans ce domaine-là et donc dynamiser autant que possible la recherche dans ce domaine-là.
Est-ce que l'université, la cité scientifique, est un lieu de mise en application, sinon de recherche, de travaux scientifiques et qui justement utilisent cet espace comme champ d'expérience?
Alors effectivement, il y a des expérimentations qui sont menées à la cité scientifique, hein, donc sur le domaine universitaire. Par exemple, l'opération de pâturage urbain qui est menée sur le campus depuis maintenant 2 ans, c'est pas complètement neuf parce que ça se fait déjà dans d'autres collectivités, mais ça se fait, on va dire, différemment à la cité scientifique parce que derrière cette opération de pâturage, il y a les formations qui étudient en fait l'évolution du milieu en lien justement avec la mise en œuvre de ce pâturage. Et donc il y a des formations en gestion de la biodiversité notamment qui font des inventaires de la biodiversité sur ces parcelles. Et ça permet en fait d'avoir un retour peut-être plus précis, plus scientifique, j'ai envie de dire, sur les opérations qu'on mène en interne par rapport à une autre collectivité qui la mettra en œuvre, mais sans avoir de formation et de laboratoire de recherche à sa disposition.
Est-ce que vous auriez un exemple concret d'expérience qui serait menée et qui serait assez originale?
Alors d'expérience particulièrement originale, il faut faire original. Je ne sais pas si c'est original. Je sais qu'il y a alors c'est surtout au niveau des formations, hein, il y a beaucoup d'étudiants qui participent et qui essaient d'innover, de proposer des choses intéressantes. Il y a un projet par exemple d'éoliennes qui est en cours de préparation par des étudiants de Polytech et donc voilà qui vont présenter à l'université. Après, y a des formations qui participent par exemple à nos réflexions sur le plan de déplacement et qui vont essayer de faire des propositions innovantes à l'université sur la façon d'inciter les usagers à recourir au mode de transport doux.
Alors actuellement, c'est un peu compliqué à l'université de circuler, hein. On est en plein chantier. Est-ce que le chantier correspond aussi dans sa mise en œuvre à quelque chose de développement durable ?
Alors, la démarche de développement durable, elle est liée, alors c'est peut-être malgré elle, justement, à tous ces travaux qu'on voit autour de la cité scientifique, donc qui sont pour la plupart d'entre eux liés aux travaux d'accessibilité au grand stade, hein, donc l'édifice qui se construit à proximité. Et en fait, la démarche qu'on mène, et notamment au niveau des déplacements, du plan de déplacement, est liée justement à ces nouveaux aménagements, dans la mesure où des nouveaux parkings sont construits et des nouveaux axes de circulation sont également construits à cet effet, donc qui vont avoir pour influence de limiter la circulation à l'intérieur du campus. Donc on aura certainement à l'horizon 2016 un campus plus piétonnier. Et également de nouveaux accès cyclables, par exemple, qui viendront de Lille, ou alors entre Lille et le centre-ville de Villeneuve-d'Ascq. Enfin, tout un certain nombre d'aménagements qui vont faciliter l'accès à la cité scientifique, et notamment par ce qu'on appelle les mobilités douces, donc la marche à pied, le vélo et les transports en commun.
Alors, si on prend le vélo, est-ce qu'il existe un système qui permette d'emprunter, de louer un vélo, comme ça se fait à Lille ?
Alors le système Vélil s'installe à Villeneuve-d'Ascq là actuellement, et dans la dernière vague donc d'extension du système Vélil, il va arriver jusqu'à la cité scientifique. Donc à la cité scientifique, on pourra profiter du système donc des vélos en libre service proposés par Transpol et Lille Métropole, et également des vélos en location longue durée par Transpol.
À partir des stations de métro ?
Et ce sera donc oui à la cité scientifique et à quatre cantons.
D'accord. Donc là, qu'est-ce qu'il y a comme problème majeur dans le domaine du développement durable et notamment de l'environnement qui se pose et sur lesquels vous planchez actuellement ?
Alors les problèmes majeurs, je dirais que la plus grosse difficulté pour l'université à l'heure actuelle dans sa démarche, ce sont ces bâtiments. Parce que donc, vous savez que c'est une université qui a été construite assez rapidement dans les années 60. Mmh. Et donc aujourd'hui, on occupe encore des bâtiments qui datent de cette époque-là et qui ont des performances énergétiques qui sont assez faibles. Certes dans la moyenne des autres universités, mais qui sont assez faibles. Et notamment à l'issue du Grenelle de l'environnement, il y a un certain nombre d'objectifs d'amélioration de ces performances énergétiques qui incombent aux universités. Et on a fait quelques études et ça va être très très compliqué. Ça nécessite un investissement très important et je pense que c'est peut-être le dossier le plus compliqué.
Ouais. Il vaut mieux raser et reconstruire ou aménager ?
Alors ça dépend, on peut pas faire une réponse unique à cette question. En fait, ça dépend de chacun des bâtiments. Ce qu'il faut, c'est évaluer la somme des travaux nécessaires, la somme à investir pour réaliser les travaux nécessaires, comparer cette somme-là aux économies d'énergie qu'elles nous font réaliser, donc l'amortissement un petit peu, ou le retour sur investissement plutôt de ça. Et comparer ça aussi avec la valeur du bâtiment. Et de temps en temps, le montant des travaux est beaucoup trop important par rapport à la valeur du bâtiment. Et là effectivement, il vaut mieux le déconstruire et reconstruire par au-dessus.
Est-ce que les bâtiments de départ, on va dire des années 60, étaient prévus pour une durée de vie et est-ce que cette durée de vie est caduque? Comment ça se passe?
Alors je ne sais pas, je n'ai pas connaissance des programmes techniques qui avaient été établis à l'époque de la construction de ces bâtiments, donc je ne sais pas pour combien de temps il avait été prévu qu'il dure. Après, faut se remettre aussi dans le contexte de l'époque, hein, on sortait de la guerre, il y avait le baby-boom et il y avait une démocratisation de l'enseignement supérieur, donc un afflux massif d'étudiants vers les universités. Et donc l'État a arbitré entre plusieurs priorités la démocratisation de l'université, c'est une bonne chose, a primé sur les performances énergétiques des campus. On aurait pu mettre plus de sous ou avoir moins de bâtiments et avoir des bâtiments plus performants, mais c'était pas forcément la question ni la priorité de l'époque.
C'était aussi une époque où il y avait encore du charbon.
Voilà, oui, oui. On était beaucoup moins contraints par l'épuisement des matières premières. Et effectivement, on commençait seulement à se poser ces questions à cette époque-là.
Comment on chauffe l'université ?
Alors l'université est chauffée majoritairement par la chaufferie qui est sur la cité scientifique. Et malheureusement, cet apport de chaleur, qui a priori est plutôt performant, est complété par un certain nombre de convecteurs. Sont une espèce de blague énergétique, mais qui sont très faciles à installer et puis fortement utilisées.
Cette chaufferie, elle utilise quel combustible ?
Et là, actuellement, on est en train de changer donc, cette chaufferie au gaz on est en train d'essayer de passer à une autre technologie qui pourrait être plus performante, mais c'est en cours d'étude, donc je peux pas vous répondre. Pour l'instant, on n'a pas encore assez d'éléments.
Mmh. Donc effectivement, on a bien compris que l'énergie venant rare est chère. Le développement durable, c'est aussi tenir compte des réalités économiques, pas seulement actuelles, mais à inscrire dans le futur.
Oui, effectivement, l'université, elle a pour mission de maintenir la continuité du service public auquel correspond l'enseignement supérieur. Et il ne faudrait surtout pas qu'elle se retrouve un jour dans une situation d'incapacité à payer ses factures énergétiques. L'augmentation aussi du prix des hydrocarbures va avoir pour conséquence d'augmenter les coûts de déplacement. Et ce coût, c'est pas l'université qui va le supporter elle toute seule, ce sont également les usagers, donc les étudiants et les personnels. Et il faut peut-être prendre des mesures dès maintenant pour inciter les usagers à se déplacer autrement, pour qu'ils ne se retrouvent pas dans une situation où ils auraient des difficultés financières pour se rendre sur le campus, ce qui limiterait l'ouverture de l'université pour tous.
Les espaces de stationnement, est-ce qu'ils ont tendance à diminuer ou augmenter ?
Alors, j'ai pas de comptage, de chiffrage exact, mais il me semble que ces derniers temps, le nombre de places de stationnement a augmenté, justement en lien avec le nouvel aménagement qui est le grand stade. Donc, il y a énormément de parkings qui ont été construits.
Et d'une manière générale, on constate qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent en voiture ou de moins en moins ?
Alors pour l'instant, on n'a fait qu'une seule enquête déplacement, donc on a une idée un peu des habitudes de mobilité de chacun. Par contre, on n'a pas de vision dynamique, c'est-à-dire que je ne peux pas comparer cette enquête avec une autre enquête qui aurait été réalisée dans les mêmes termes. Donc pour l'instant, on ne sait pas, on a juste une vision statique un peu des habitudes de déplacement des usagers et de leurs contraintes aussi.
Comment on concilie le développement durable, donc une programmation de solutions et la vie, pour qu'elle soit agréable et conviviale, j'allais dire, et fonctionnelle.
Eh bien, à vrai dire, ça fait partie du développement durable, hein. Alors si on reprend le schéma classique, ce serait concilier les aspects environnementaux, les aspects sociaux, les aspects économiques, et la qualité de vie, le confort, fait partie de l'aspect social. Si on veut. Et on peut même le placer dans l'aspect économique s'il a une influence sur les performances des agents, par exemple. Donc c'est de toute façon indissociable. Après, la façon de les lier, c'est certainement parce qu'une démarche de développement durable, bien souvent, et notamment à Lille 1, c'est fait autant que possible selon un mode participatif, c'est-à-dire qu'on essaie de consulter au maximum les usagers. Parce qu'il y a un certain nombre de solutions techniques qu'on peut imaginer. Mais il y a aussi un certain nombre de solutions spécifiques aux caractéristiques de l'université qu'on peut connaître qu'en consultant en fait les personnes qui vivent au quotidien à l'université. Et donc on consulte régulièrement donc les usagers de l'université et c'est justement une occasion pour eux de faire remonter leurs contraintes quotidiennes. Et donc je dirais quelque part avoir une démarche de développement durable, c'est être plus à l'écoute de ces usagers. Donc ça a certainement une influence non négligeable sur leur confort. Leur qualité de vie.
Est-ce que ces usagers sont de plus en plus concernés, voire citoyens ?
Alors, c'est pas évident de mobiliser les usagers. On a organisé un certain nombre de manifestations, de sensibilisation, dont certaines ont rencontré très peu de succès. Après, ça ne veut pas dire que tout le monde s'en fiche, bien loin de là, parce que sur le campus, on compte un certain nombre d'associations qui s'engagent au quotidien pour le développement durable. Donc des étudiants volontaires ou même des personnels volontaires hein, qui s'engagent là-dedans, on en compte un certain nombre, hein, le maire et bien d'autres. Dans les réunions de concertation qu'on organise, il y a quand même des usagers qui viennent et qui discutent, et on sent quand même qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont vraiment qui se sentent concernées par cette question-là.
Donc Louis Bizalion, vous êtes chargé de mission développement durable à l'université Lille 1. Est-ce qu'autour de vous il y a une équipe de responsables qui s'engage, qui engage l'université et qui décide?
Alors, j'ai pas d'équipe autour de moi dans la mesure où il n'y a pas de service développement durable dans cette université, mais mon poste de chargé de mission, il est positionné dans l'organigramme de façon à être à agir en transversal, c'est-à-dire que je travaille avec tous les chefs de service des différents services et donc après la mise en œuvre, c'est un combo service et donc l'idée est de dialoguer avec les services de l'université pour savoir quelles sont les actions qu'on peut mettre en œuvre, comment les mettre en œuvre. Donc voilà, donc c'est l'équipe qui m'entoure, ce sont l'ensemble des services de l'université qu'on essaie d'influencer donc dans cette direction-là.
Alors on parlait tout à l'heure d'espaces verts qui changent un petit peu dans la façon dont ils sont traités. À un moment donné, on a vu arriver des animaux dans l'université.
Oui. Ça c'est l'opération de pâturage urbain donc que j'évoquais tout à l'heure. Donc ce sont effectivement du bétail qui sont venus sur certaines grandes parcelles de l'université remplacer les tondeuses thermiques.
Ils sont encore là, ces animaux ?
Et actuellement, ils sont là. En fait, ils arrivent dans le courant du mois d'avril, en général, et ils repartent dans le courant du mois d'octobre. Donc, ils font, en fait, les mois où il y a lieu de tondre, et quand il n'y a plus d'herbe à brouter, ils s'en vont.
Est-ce que les personnels de l'université qui tondaient les pelouses se sont recyclés en fermiers, gentlemen ?
Alors, ils participent effectivement à cette opération. Donc c'est un prestataire extérieur hein, qui s'occupe de ces animaux, mais le service des espaces verts est associé, donc ils assurent une partie de la surveillance, et puis également les apports en eau, et puis signaler tous les problèmes aux prestataires, donc ils prennent pas mal de plaisir à faire ça. Mais surtout, ils ont pu se consacrer à d'autres tâches qu'ils n'avaient pas le temps de faire. En fait, le fait d'avoir mis ce bétail donc sur le campus, ça libère du temps de travail en fait, qui permet donc aux agents de remplir d'autres missions, notamment la propreté du campus.
Si on prend les 5 prochaines années, quels sont les gros chantiers à part le nouveau stade qui va être finalement, au niveau des espaces parking, etc., ça va être finalisé cette année, non ?
Alors, le stade va être livré, là, dans le courant de l'année 2012. Je connais pas la date exacte, mais je pense que c'est pour cet été. Et il va y avoir un premier temps par rapport à ce stade où on va un peu observer comment ça se passe, parce qu'on n'a pas trop idée et personne n'a trop idée, même s'il y a d'autres stades par ailleurs, mais jamais, la configuration n'est jamais exactement la même. Donc on va dans un premier temps observer comment ça se passe, quel usage peut être fait des parkings par les usagers de Lille 1, par les usagers du Grand Stade, comment s'organise le partage, et puis comment ça se passe en fonction de telle ou telle jauge, s'il y a 30 000 supporters, comment ça se passe, s'il y en a 5 000, comment ça se passe. Donc effectivement, on va beaucoup observer, et puis ça va être dans ce cadre qu'il va falloir qu'on agisse et qu'on mette en œuvre les actions qu'on veut mettre en œuvre pour faciliter les déplacements doux, et on essaiera de le faire en lien.
Louis Bizalion, je propose qu'on refasse un point l'année prochaine, j'allais dire un point d'étape après le moment de cette ouverture du stade qui va forcément être surveillé de près, hein, parce qu'au départ il y avait quand même une inquiétude, quelques appréhensions sur les réactions que ça susciterait, aussi les problématiques nouvelles hein, que l'université n'avait pas l'habitude de prendre en charge.
Des inquiétudes, il y en a encore. Effectivement, on pourra faire le point l'année prochaine. On aura certainement plus de réponses.
Très bien. Qu'est-ce qui se passe pendant les vacances ? On en profite pour faire des choses particulières ou tout ça ?
Alors là, pendant les vacances, déjà actuellement, mais pour la rentrée, on prépare une grande campagne de sensibilisation pour faire passer un certain nombre de messages aux étudiants et aussi aux autres usagers de l'université. C'est une campagne de sensibilisation aux éco-gestes. Voilà.
Et merci beaucoup. Très bonne journée.
Je vous remercie. Thank you.
voilà, Lila Info est terminée. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un autre sujet sur les procédures d'inscription en ligne. À 18h30, ce sera l'heure de le mettre sur Radio Campus 106.6 FM, www.campuslille.com. Bonne soirée à toutes et à tous.